Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. À l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose une courte série de 3 épisodes. En 2021, voici le message du sida au monde. Du passé, du présent, du futur, je suis passé pour être présent dans ton futur. À travers ces mots, l'association AIDE souhaite continuer à réveiller les consciences et rappeler que plus que jamais, le sida ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent et malheureusement au futur. Dans cette série inédite, vous allez découvrir des hommes différents au micro de On the Verge. Tim incarne le passé, Jérémy le présent et Guéric le futur. Je tenais à remercier en premier lieu Pierre Battista qui a organisé ces rencontres et le spot du boulevard Beaumarchais pour son accueil. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Salut Tim.
Bonjour.
Est-ce que Tim, tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît?
Je m'appelle Tim, donc j'ai...
Et je veux bien que tu mettes le micro près de ta bouche.
C'est assez merci. Là, je m'appelle super. Tim, j'ai 57 ans, je suis séropositif détecté en 1986, je travaille à AIDE au spot depuis 2 ans.
Tu me disais que tu avais une carrière avant dans les médias.
Oui, j'ai fait 10 ans de prévention comme consultant, et puis avant j'étais journaliste, et voilà, j'ai changé 2 fois de vie.
Et parisien.
Et parisien, je suis né à Paris.
Ok. T'as un quartier de prédilection ?
J'habite à Belleville, j'aime beaucoup Belleville.
Ah ouais, c'est un chouette quartier, je suis d'accord. Tim, c'est quoi ton tout premier souvenir lié au VIH ?
La première fois que j'ai vu quelque chose autour du VIH-Sida, ça devait être en 81, dans ces eaux-là, et c'était un article, enfin une page, avec un article très court dans Actuel, qui présentait, je pense, qui parlait du cancer gay, qui montrait... 2 hommes, dont un allongé, qui disait qu'il y avait une nouvelle maladie et que il y avait, la communauté était très solidaire. Je me souviens un peu, ça m'avait marqué. Bon, je n'arrive pas à retrouver cette brochure, mais j'ai très clairement en tête ce truc qui m'avait quand même passablement marqué, puisque j'avais à l'époque 15 ans, 16 ans.
Et à 15, 16 ans, tu te savais déjà homosexuel?
À 15, 16 ans, j'avais déjà des expériences homosexuelles parce que je sortais la nuit un petit peu en loose day et que donc j'avais découvert le monde un peu sauvage, les rencontres sexuelles.
Sauvage.
Oui, c'était très sauvage.
Et quand en as-tu entendu parler pour la première fois en France par les pouvoirs publics ou même dans ton entourage? Parce que là, effectivement, ça venait des États-Unis, donc il y avait ce côté, genre ça vient d'ailleurs. Mais quand est-ce que tu en as entendu parler vraiment dans la rue ou...
Il me semble que c'est arrivé assez rapidement après ça, après cette première occurrence, parce que rapidement, on a eu régulièrement des informations qui venaient, effectivement d'abord des États-Unis, mais qui étaient aussi plus déjà qui concernaient la France. Enfin, il y avait déjà des stars qui étaient mortes, comme Klaus Nomi est mort assez vite. Mm-hmm. Après, il y a eu l'histoire de Rocketson. Après, il y a eu Jean-Paul Aron qui avait écrit Mon Sida dans le Nouvel Observateur. Après, il y a Foucault qui est mort en 84. Enfin, il y avait quand même pas mal de gens qui mouraient. Fabrice Emer qui était le patron du Palace. Il n'est pas mort du Sida apparemment, mais il y avait une espèce d'ambiance. Et puis, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de marquant à l'époque? Sur les lieux de rencontre, on n'en parlait pas beaucoup, mais je me souviens qu'il y avait un truc qui était très, très, très traumatisant. C'est qu'il y avait marqué en gros des graffitis absolument ignobles qui disaient noir égale sida en fait. Et c'était absolument effrayant.
C'est-à-dire qu'on partait du postulat que c'était la communauté.
Il y avait la fameuse théorie des 4 H, homo, héroïnomane, haïtien, hémophile.
Ah.
Il y avait quand même toute une espèce de,
ouais, de
d'emballement forcément, ouais, paranoïaque et de panique sexuelle sur le fait qu'il y avait des catégories de population qui étaient. Porteuse du virus.
Oui, des légendes urbaines qui ont...
Ah, ou de la maladie, parce qu'on ne savait pas encore que c'était un virus, en fait.
Bien sûr.
Tout ça, c'est construit, je trouve... Enfin, ça a gagné en épaisseur au fur et à mesure qu'on avance dans les années 80, jusqu'à ce qu'on découvre le virus, que ce soit la confirmation du virus, qu'on... Voilà.
De son mode de transmission, etc. etc.
On connaît son mode de transmission, oui.
Ok. Donc toi, tu commences ta vie sexuelle active à ce moment-là, dans ce bordel un peu grave, un peu sombre. Mais est-ce que tu prends conscience que toi-même, tu te mets dans des situations à risque ?
Ben, en fait, au début, je pense que j'ai fait absolument comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai mis à distance. Enfin, encore une fois, je suis très jeune. Hein. J'ai commencé à sortir quand j'avais 15-16 ans, de nuit, totalement en loose day. Et après, au lycée, j'étais un petit peu... Enfin, c'était un peu abstrait quand même pour moi, tout
bien
ça.
Sûr, bah,
c'était,
bien
c'était
sûr.
Une expérience un peu subie, et donc le sida, c'était quand même assez loin. Oui. Après, le bac, j'ai fait une année de prépa, et là, je me souviens que c'était pareil aussi. J'étais pas très ni à l'aise dans la prépa, ni dans la sexualité. Enfin, il y avait un truc en trop. J'ai vu l'homme blessé pendant cette année-là, et l'homme blessé, c'était un petit peu compliqué, parce que la vision de l'homosexualité était très sombre. Hein.
Oui.
Le héros avait pas beaucoup plus que moi. Il y avait toute une espèce de truc identificatoire qui était un peu glauque. Donc en fait, ça a contribué aussi à mettre mon homosexualité à distance, mais peut-être aussi la façon que j'avais de faire attention.
Mm-hmm.
Et déjà, donc je me souviens qu'au début, c'était un petit peu, j'étais un peu pas foufou. Enfin, si, j'étais foufou, mais surtout pas très assumé. J'ai commencé à réagir en 1983 mm-hmm. environ. En lisant des choses sur la découverte du virus qui commençait à se faire à l'époque, parce qu'il y avait déjà une première piste. Donc c'était évident que c'était potentiellement un virus, ou en tout cas quelque chose qui se transmettait, et donc il pouvait se transmettre par les fluides, enfin en tout cas par le...
Oui, c'est ce qu'on...
On ne savait pas, quoi, mais il y avait quand même une grosse présomption. Et c'est vrai que j'avais, du coup, adapté ma sexualité un peu d'une façon anarchique. Hein. C'était pas très, très...
C'était plus intuitif qu'autre chose, quoi.
Oui, c'était très intuitif à ne pas... En plus, ça m'arrangeait parce que comme j'étais quand même très jeune, du coup, je me disais que ne pas pratiquer la sodomie, c'était la façon à la fois d'éviter la grande question de l'homosexualité tout en évitant la question du sida.
Je trouvais de que pire d'un coup.
Pas mal. Enfin, surtout, ça me permettait de continuer à m'apprendre.
C'est ça, flirter, te découvrir, bien sûr.
Cela dit, c'était trop tard, puisque quand j'ai fait le premier test en 86, le premier test a été positif, ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais été séronégatif.
Le test, tu le fais pour vérifier si tu as le VIH ou toute autre chose ?
J'ai fait le test dans une circonstance où j'avais un herpès, j'avais chopé un herpès, et donc j'étais allé... au centre Tarnier, je crois, rue d'Assas. Et là, automatiquement, en fait, maintenant, à cette époque-là, ils proposaient déjà le test. Donc j'avais dit oui. Ils le proposaient, hein. Ils
s'étaient
juste... J'avais dit oui. Et une semaine après, quand je suis revenu, le résultat était positif.
Je vais pas te poser la question comment réagit-on ? Je pense que le monde s'effondre à ce moment-là.
On réagit. C'est très difficile de réagir à l'époque parce que...
Donc t'as 20 ans ?
Pardon, j'ai 21 ans, oui.
Ouais.
Et je sais que ça date d'il y a longtemps parce que pendant les dernières années, l'année précédente ou les années, j'avais pas vraiment été vraiment à risque en fait.
Donc, oui.
Ça a été une semi-surprise, mais ça a quand même été une surprise. Mais surtout, le truc, c'est qu'à l'époque, en 86, il y a rien, il y a pas de traitement, il y a pas de prise en charge du tout. Et donc en fait, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et la médecin, qui était une jeune femme, qui était très gentille, m'a dit une chose très bizarre, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et qui est toujours un peu compliquée pour moi à assumer. Elle m'a dit « Vous ne pourrez pas avoir d'enfant.
» Oui.
Et je me suis dit « C'est un peu bizarre de me dire ça, puisque je viens de lui expliquer que je suis homosexuel. Et que, donc, il y a de toute façon peu de chances que j'ai d'enfant. »
Oui.
Mais sur le coup, j'ai pas bien... Enfin, si, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'avait pas de solution à me proposer, surtout.
Ouais.
Et que sa phrase était ça lui a un peu sorti comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que je n'étais pas la seule personne à qui elle a annoncé qu'elle était séropositive.
Oui, sans solution, quoi.
Mais elle est quand même sans solution. Donc, elle ne va pas me dire, vous allez mourir dans 2 ans. On ne savait pas quoi dire,
en fait. C'est ça, on ne savait pas quoi dire, bien sûr.
On ne savait pas quoi dire. Je pense qu'après, elle m'a dit le truc d'usage, c'est-à-dire, tant que ça ne se déclenche pas, ça ne se déclenche pas. Et voilà, et moi, je suis reparti un peu en sens inverse. Alors, c'était très étrange parce que c'était exactement le même chemin que je prenais quand j'étais ado pour aller au lycée. Juste quelques années avant, donc j'ai fait, et c'était très tôt le matin aussi, donc j'ai eu l'impression de refaire ma vie à l'envers.
Ah oui,
ça a été un peu compliqué.
Très cinématographique dans ce moment-là.
Mais très cinématographique. Après, je devais partir à Londres, et je suis parti à Londres et pour le week-end, pour le week-end pour quelques jours, et je l'ai fait. Et j'ai pas occulté, mais disons que j'ai arrêté la vie sexuelle, j'ai pendant un temps fait une sorte de moratoire sexuel. Mm-hmm. Il me paraissait quand même la moindre des choses. Le temps de digérer tout ça et de voir comment ça allait se passer. Et après, je pense que j'ai tablé sur le fait que j'étais séropositif mais pas malade du sida, qu'il fallait pas que je tombe malade.
T'en as parlé à des amis, à des proches?
J'en ai parlé à des proches, j'en ai parlé avec le mec chez qui j'habitais, avec qui j'étais à l'époque, et puis cette bande-là, qui était ma bande donc de nouveaux amis gays ou entourage gay. J'en ai aussi parlé à ma bande de vieux potes du lycée.
Ouais.
Et c'est tout. J'en ai pas parlé à ma famille. Hein. Ben parce que voilà, ouais. C'était pas la peine. Enfin, mon père est mort quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans, et j'aurais eu l'impression d'apporter encore du malheur en fait.
Je comprends.
Donc j'ai pas dit à ma famille, non pas qu'ils l'auraient forcément super, ils m'auraient pas rejeté, j'avais pas peur d'un rejet, mais j'avais pas envie d'être celui par qui le malheur arriverait à nouveau.
Oui, je comprends. Voilà. Surtout à cette époque, encore une fois, où on recontextualise.
Il n'y avait rien, en fait.
Voilà.
Et notamment, c'était cette attitude-là vis-à-vis de ma grand-mère, vis-à-vis de ma mère,
Bien sûr. Par exemple.
Je pense que ça aurait été très paniquant pour eux, oui. Pour elle. Hein,
Puis ce n'est pas dans la suite logique, dans la tête d'un parent.
Donc, j'ai un peu croisé les doigts en espérant que ça se passe le mieux possible.
Comment, du coup, tu arrives dans la trithérapie? À quel moment ça arrive exactement dans ta vie?
C'est beaucoup plus tard, parce que moi, ça, c'est en 86. Après, en fait, j'avais interrompu mes études un petit peu sauvagement après l'hypocagne parce que je ne trouvais pas ma voie,
parce
que ça me faisait chier et que je trouvais que j'avais autre chose à faire que de faire des études. Et donc, je me suis mis à travailler, je sortais beaucoup, j'ai rencontré des gens, enfin, j'ai fait le tour de... C'était les années 80 à Paris, c'était assez drôle quand même. C'était une période assez riche et c'est une période où on avait vraiment surtout l'impression que tout allait s'ouvrir en fait.
Ouais, c'était libre, c'était festif.
Que c'était un peu la fin d'un monde ancien où les choses étaient très hiérarchisées. Alors je mesure aujourd'hui combien on s'est planté, mais à l'époque, disons qu'on avait cette espèce d'idéal.
Allez, on se replonge en 80.
Les choses allaient s'ouvrir.
Ouais, bien sûr.
Et que donc il fallait en profiter et que dans ce truc-là, il n'allait pas plus forcément être nécessaire d'avoir un bac plus suite pour réussir et qu'on pouvait tenter sa vie autrement. Et moi j'étais vachement là-dessus. J'ai été diagnostiqué en 86, donc, et là, j'ai quand même eu, au bout d'un moment, une grosse crise existentielle.
J'imagine, ouais.
Et là, je me suis assis, enfin, vraiment, j'ai eu un moment de gros, gros, gros désarroi, et j'ai fait un truc un peu bizarre, au lieu de sauter du sixième étage, j'ai réfléchi à ce qui me plairait de faire, sans penser à la contrainte du monde, sans penser au travail, sans penser à ce qui est possible ou non, enfin vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire, sans penser à la maladie. Et en fait, je me suis souvenu, c'était assez près de moi que j'étais très fan d'architecture quand j'étais jeune, et en fait, je suis allé m'inscrire en architecture. C'est-à-dire, je me suis lancé dans ces études de 56 ans.
J'allais dire.
Alors que j'avais. Oui. Voilà, quoi. Et j'ai fait ça, bizarrement. Enfin, j'ai eu ces réflexes-là de dire OK, ben, on va autant en profiter, quoi, autant faire quelque chose qui me plaît. Et j'ai pas du tout pensé à ce que ça donnerait par la suite. C'est-à-dire, je l'ai pas vu dans un plan de
carrière ou autre.
Ouais. J'ai dit juste, bah, s'il me reste du temps à passer, je veux le faire en.
C'est intéressant ce processus psychologique de se dire bon bah autant faire
un truc comme ça. Et encore
kiffer.
Une fois, je me suis arrangé avec ma famille avec qui j'étais un petit peu en bisbille, enfin en haut des bas quoi. Mais donc j'étais soutenu par ma famille. Hein. J'ai travaillé en même temps. Tout ça se faisait. Du coup, j'ai quand même passé 3 ou 4 années très très intenses. C'est-à-dire que je travaillais le week-end, je sortais le week-end et je faisais mes cours.
Et physiquement.
Physiquement, j'ai tenu 3 ans comme ça. Jusqu'à fin 90 comme ça. Ça a été très 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 intense les premières années. Et à Noël 90. Je suis tombé malade, juste au moment où j'étais retourné à l'hôpital et où j'avais commencé le traitement par l'AZT, c'est-à-dire qu'on m'a filé de l'AZT fin 90.
Donc ça, c'était les premiers traitements?
Ouais, c'était les premiers traitements et en fait, les consultations s'ouvraient. Il n'y avait pas forcément des bons résultats, mais un très bon ami à moi m'a dit « Peut-être que maintenant, c'est le moment de faire quelque chose et de s'occuper, de s'en occuper. » Et donc, j'ai dit « Ok, on y va. » Et je suis allé, j'ai vu un professeur qui était mon filet de l'AZT, et au moment où j'ai commencé l'AZT, j'étais malade, pas du tout à cause de l'AZT, j'étais malade parce que j'ai chopé ce que je croyais être une crève, j'ai fini la charrette de l'année à plat ventre, je suis parti en vacances à plat ventre, il a fallu rentrer en catastrophe à Paris parce que je montais, la fièvre montait, là j'ai dû dire à ma mère que j'étais sur repos. Et il y a ma sœur qui était venue passer les vacances avec nous.
Elles l'ont...
C'est-à-dire comme en fait, c'était dans le feu de l'action.
Ouais, ouais. Tu pars au plus pressé, quoi.
Est passée. Non, elles ont été... de ce point de vue-là, elles ont été toutes... Enfin, ça a été très, très...
Il fallait digérer vite, il n'y avait pas le temps.
Il fallait être là. Et bon, j'ai fini aux urgences à l'hôpital où j'étais suivi. Et en fait, ils m'ont gardé, quoi. J'avais le ménage vide, j'ai fait le ménage vide.
Ah ouais.
J'ai fait le ménage vide, je suis monté très très haut et je suis tombé dans les pommes.
Waouh.
Je me suis réveillé quelques jours plus tard.
Donc, tu as été traité pour ça ?
J'ai été traité pour ça. Enfin, on n'a jamais trop su d'où venait cette méningite, mais enfin, du coup, je m'en suis quand même tiré.
Waouh, ouais, effectivement.
Et après, je suis parti. Voilà, donc c'était mon entrée dans le sida, on va dire.
Ouais.
Donc, ça, c'est en 90. Et ça a duré jusqu'en 96, 80, oui, jusqu'en 96, en fait, jusqu'aux trithérapies. J'étais en alternance. Ça allait, ça allait pas, ça allait, ça allait pas.
Tu fais très attention aussi, j'imagine.
Je faisais extrêmement attention, mais je travaillais beaucoup, je sortais beaucoup, quand je prenais beaucoup de drogue, je faisais beaucoup de sport. Donc je faisais attention, et en même temps, je faisais pas attention.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Je faisais attention dans la mesure où tout ce que je faisais correspondait en fait à une sorte de codification de ce qui va ou pas. J'avais tout ce que je faisais en fait était évalué en fonction de mon état perçu. Si j'arrivais à faire ça, ça voulait dire que ça allait bien, et si je n'arrivais pas à faire ça, ça veut dire qu'il y avait un problème.
Mais ça, c'était toi avec toi-même, c'est ton intuition. C'est-à-dire que t'écoutais pas, même si j'imagine que t'écoutais médecin, mais si on te disait bon, écoutez, la team, vous tirez un peu sur la corde, si toi tu te sentais bien.
Premier suivi que j'ai eu à la Pitié. Au début, ça s'est bien passé, et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu vers 92, 93. Je vivais avec un mec à l'époque, j'étais tombé amoureux en 88, j'étais tombé amoureux d'un mec qui habitait au Canada.
Wow.
Faisant les choses simplement, et donc j'étais tombé totalement amoureux de lui, et donc on s'est fait une relation un peu à distance, lui aussi était séropo. À l'époque il n'y avait pas internet, il avait téléphoné, ça coûtait une blinde, donc on s'écrivait,
les romantiques sont...
C'était super romantique et c'était un peu compliqué, moi on y venait, moi j'y allais quand je pouvais, en plus on n'avait pas un flèche, enfin, c'était quand même des moments où on était très jeunes et sans argent. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour le faire. Puis il est venu s'installer à Paris. Mmh. Et quand il est venu s'installer à Paris, donc en 91-92, je ne sais plus exactement, il est tombé malade. Il est tombé malade très rapidement et très gravement, en fait. On habitait dans un appartement que j'occupais qui était très agréable, mais qui était tout petit, qui faisait 20 mètres carrés, au 7e étage. Donc là, il y avait une maladie qui était très violente et ça a été très chaud.
C'est des conditions compliquées.
Il a fini par rentrer pour se soigner.
Il est reparti au Canada ?
Il est reparti au Canada. Et en fait, moi, comme c'était lui qui était malade, je ne me suis pas rendu compte que moi, je tombais malade aussi. Et que je commençais à avoir des sortes de tuberculose, en fait, à répétition.
Ah.
Et donc, j'étais très, très fatigué. J'étais très épuisé. Et donc, ça a été une phase extrêmement dense et compliquée entre 91 et 96. Où là, j'ai effectivement changé de médecin parce que l'équipe que j'avais à la Pitié, j'étais pas content. En fait, un médecin qui était par ailleurs un mec plutôt bien, me voyait perdre du poids et fatigué, et moi qui m'en sortais pas, il m'avait dit « Ah, mais c'est normal que vous perdiez du poids, vous avez le sida ». Et en fait, c'était juste qu'il fallait pas me dire.
Ouais, je comprends.
Donc en fait, j'ai pris mes claques et mes claques, et surtout mon dossier médical, et je suis allé voir une autre médecin qui est toujours la mienne actuellement, qui au contraire, elle m'a... pris, donné un traitement tout de suite, mis en examen, enfin
fait
l'examen qu'il faut.
Je vois ce que tu veux dire.
Elle m'a totalement remise d'aplomb.
Puis elle t'a apporté des solutions.
Elle m'a apporté des solutions. C'est la médecin avec qui je vois toujours, que j'adore, qui m'a sauvé la vie.
Elle fait partie de ta famille maintenant. Et c'est à quel hôpital qu'elle te suit ?
C'était à Saint-Antoine. Puis après, je suis retourné à la Pitié. Enfin, toujours, on suit le médecin. Donc tout ça, c'est passé de façon très complexe entre 90 et 96. 96, au début de l'année, fin 95, début 96, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Ça commençait vraiment à descendre très, très, très bas.
Et ton moral était comment à ce moment-là ?
Mon moral à ce moment-là est évidemment tombé en chute libre. J'avais dû déménager dans des conditions un peu compliquées.
Oui, puis ton amoureux était parti.
Mon amoureux est parti, mais surtout, il est parti pour de bon. C'est-à-dire qu'entre temps, il est mort. Il est mort en 94.
Au Canada ?
Au Canada. Donc c'était un gros traumatisme, évidemment. Et donc, ouais, toute la période, à partir du moment où il est mort en 94 et le moment où les trithérapies sont arrivées 95-96, ça a été une phase extrêmement descendante.
De dépression difficile, ouais.
Voilà. Mais à la fin, j'étais vraiment pas bien. Fin 95, j'étais vraiment pas bien. Début 96, c'était vraiment très inquiétant. Et en fait, les trithérapies sont arrivées.
Mais t'as pas 30 ans à ce moment-là.
Si, j'ai 30 ans en 94.
Donc 94,
ouais. Donc en 96, les trithérapies arrivent et j'ai accès, évidemment. Enfin, évidemment, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu accès. Mais moi, j'étais...
À quel titre ils n'ont pas eu accès ?
Je crois que les gens qui étaient trop malades ou trop loin avancés dans la maladie n'ont pas forcément eu accès au traitement. En tout cas, ça ne marchait pas.
Wow.
Il y a quand même des gens qui sont... pas été sauvés.
Bien sûr, bien sûr, à ces années-là.
Pas les oublier, en fait. C'était quand même assez...
Oui, j'imagine que quand la charge virale est beaucoup trop haute, la thérapie...
Alors, en fait, la chance que j'ai eue dans cette période glauquissime, c'est que, grosso modo, malgré tout, je supportais bien le traitement. D'abord, ils m'ont payé, même avant la trithérapie, je répondais assez bien au traitement. Et surtout,
la ZT dont tu parlais.
Oui, même la ZT, j'ai mis beaucoup de temps avant d'être intolérant à la ZT. Et puis après, il y a eu plein d'autres qui sont arrivés en cours de route, ce qui fait qu'à partir de 1994, en fait, paradoxalement, on s'est mis à parler de chronicité du sida. C'est-à-dire qu'en fait, on avait compris qu'il n'y aurait pas forcément un traitement qui allait arriver tout de suite, mais qu'on pouvait anticiper les maladies opportunistes, on pouvait faire durer, on pouvait gérer ce qui arrivait. Tant qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne chopait pas, comme par exemple le cours en céphalite multivocale progressive qui a emporté Christopher, mon ami, où là, il n'y a rien à faire, ou d'autres, le CMV, il n'y a rien à faire. Enfin, il y avait quelques maladies où il n'y avait plus rien à faire.
C'est des maladies qui attaquent quoi
ça peut être le cerveau, ça peut être les poumons.
Oui, c'est les organes vitaux.
Ça dépend de lesquels. Puis il y avait des gens qui mouraient d'épuisement, il y avait de telles raisons. Mais on avait quand même cette espèce d'idée... On nous expliquait qu'on arrivait un peu à rendre chronique, on essayait de rendre chronique quelque chose qui était a priori jusqu'à présent très fatal. En 96, c'est arrivé, moi j'ai eu assez vite, ça a marché tout de suite.
T'as senti tout de suite la différence?
En deux mois, c'était passé de l'autre côté.
Ça a dû être libérateur.
Alors, ça a été extrêmement libérateur, mais ça a été aussi un énorme travail, hein, parce que c'est pas comme aujourd'hui, après un traitement, c'est... C'était moi quand en plus j'avais les problèmes de tuberculose.
Oui, bien sûr.
C'était honnêtement à un moment j'en étais à 50 comprimés par jour.
Mais oui, c'est vrai.
Il fallait les prendre le matin, il fallait les prendre toutes les 8 heures, il fallait être à jeun, il fallait pas être à jeun, il y avait des tas.
Oui, c'est vrai que pour les gens qui savent pas, aujourd'hui la trithérapie c'est 3 médicaments, quelques médicaments.
Oui, là c'était 3 médicaments. Alors,
mais à l'époque effectivement il y avait des prises de comprimés qui étaient.
Donc c'était tout. C'était un véritable taf en fait.
C'est très contraignant.
C'était vraiment très contraignant et il y avait quand même des effets secondaires. Donc
oui, qui étaient très lourds.
À trouver la molécule. Après, plusieurs molécules sont arrivées les unes à la suite des autres.
Donc, tu as testé pas mal de choses.
J'ai fait beaucoup le tour des molécules, celles qui supportaient, celles qui ne marchaient pas. Enfin, c'était quand même une grosse activité.
Comme tu fais partie quasiment des premiers qui ont pris ces traitements-là, est-ce que tu es rentré dans un protocole de recherche aussi en France?
Alors, au début, je crois que dans mon souvenir, au début, on était tous en protocole.
Ouais.
Et puis après, il y a les choses qui se sont normalisées. Et puis après, oui, il y avait toujours des protocoles plus ou moins accessibles ou nécessaires. Après, on n'est pas forcément systématiquement en protocole. On va en protocole quand on est en échec sur les solutions.
Oui, mais que du coup, ces expériences servent aussi.
Moi, pareil, j'ai pas eu d'hypodystrophie, j'ai eu des effets secondaires ponctuels, mais pas non plus irréversibles.
Les donc, classiques, vomissements, etc.
Ouais, j'ai eu des vomissements, j'ai eu des diarrhées, mais à chaque fois, j'ai pu changer, trouver un système pour que ça marche. En revanche, ma charge virale a mis beaucoup de temps à se négativer. Au début, on n'arrivait pas à la négativer, donc il y a un moment.
Mais elle n'augmentait pas.
Elle augmentait pas, mais elle disparaissait pas. Et les T4 étaient, moyens. Enfin, mes bilans étaient corrects, mais c'était pas
plus flambant.
Mais j'étais plus malade.
Ça a dû changer ta vie, ça.
Ça a changé ma vie, mais après on a fait dans les débuts des années 2000, on a fait ce qu'on a, dû faire un peu un forcing sur les médicaments. Donc je me suis tapé une période avec beaucoup de médicaments encore. Je pense que j'ai commencé à me remettre. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment de me remettre à peu près pleinement. Vers 2001, en 2001, j'ai commencé à me dire qu'ok, là, ça marchait.
Donc, il y a 20 ans, quoi. Mais tu as eu 20 ans.
Il y a 20 ans.
Ouais. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, tout tourne autour de ça. Parce que, comme tu dis, tu as toutes ces contraintes de médicaments. Donc, c'est pas tu prends tes médocs le matin et tu fais ta journée.
Tout tourne autour de ça, mais en fait, alors, chaque personne prise dans cet étau-là réagit à sa façon.
J'imagine.
Même s'il y a des typologies, j'imagine qu'on pourrait faire, mais. Oui, tout tourne autour de ça, c'est vrai. Cela dit, moi, je trouve que une des clés pour rester en vie à ce moment-là était aussi d'avoir une espèce de dose d'inconscience. C'est-à-dire que pas l'inconscience dans le sens où on fait n'importe quoi.
Oui, mais tu prends ton traitement, tout ça.
Moi, j'étais un très bon patient. Je prends mon traitement, je vais faire les rendez-vous.
Tu respectes le protocole, quoi.
En fait, ce que j'ai vraiment fait, c'est que j'ai remis ma santé dans les mains
d'un professionnel de la santé.
De ma médecin.
Bien sûr.
Et c'était son taf de faire le truc. Et moi, c'était mon taf de faire le mien. Et mon taf, ça consistait à, si possible, rester vivant. Mmh. Voilà, c'était ça mon taf. En faisant ça, je pense que j'avais Bien sûr que je devais avoir j'avais des angoisses sur ce qui allait m'arriver, mais je pense que j'ai très fortement sous-estimé la nuisance des traitements et le poids de la maladie dans mes prises de décision ou dans l'appréciation que je me faisais de ma vie. C'est-à-dire que je ne me suis pas forcément rendu compte de mes failles ou de mes faiblesses à ce moment-là. J'ai vraiment foncé.
Ok.
Foncé, sans vraiment comprendre parfois les échecs ou les limites que j'avais et que pourtant, et dont pourtant je recevais des signes de l'extérieur. Je n'étais pas quelqu'un de très performant au boulot, par exemple.
Donc oui.
J'étais pas forcément très dans une logique de carrière ou dans une logique de.
Mais tu n'as pas
d'ambition.
Fait le lien sur le moment.
Non. Ouais. J'ai pas fait le lien sur
t'as
le moment.
T'as compartimenté quoi.
Que si j'y arrivais pas, c'est parce que j'étais nul et pas bien. Et que ouais. C'est que beaucoup plus tard que j'ai compris combien, en fait, le fait d'être séropositif ou sous traitement ou malade, d'ailleurs, la plupart du temps, a été en fait un frein à mon épanouissement,
oui, oui,
même à ma vie, en fait. Et je pense que, une fois, j'y ai peu de temps, j'ai rempli un questionnaire sur la sérophobie, par exemple, qui demandait est-ce que vous avez été victime de sérophobie. Dans un premier temps, quand j'ai répondu à ce questionnaire, j'ai eu l'impression que non, que j'avais jamais été victime de sérophobie. Et en fait, à un moment, j'ai dit non, mais c'est absolument impossible qu'en étant séropositif en 86 et jusqu'en 2020,
non,
je n'ai pas
non,
été victime
non,
Tim, de sérophobie.
Tu te mens là.
C'est absolument impossible. Et en revanche, je me suis rendu compte.
Mais peut-être que tu ne l'as pas vu, effectivement.
Non, ce n'est pas que je ne l'ai pas vu, c'est que je l'ai évité. C'est qu'en fait, dès le début, j'ai évité les endroits où
d'accord,
tu
as eu des comportements d'évitement qui t'ont.
Voilà. Ouais. Je me suis toujours mis, je me suis toujours arrangé pour aller dans un endroit, soit au boulot.
Puis fréquenter des gens aussi.
Des amis.
Oui.
Où je savais que j'ai pas eu de discrimination au travail, j'ai pas eu de discrimination du point de vue de la santé.
Oui, parce que, comme tu dis, tu as réussi à fréquenter.
Des endroits où je pouvais le faire.
Et que c'était safe.
Mais ça m'a coûté cher, en fait.
Oui, j'imagine. Bah, ça te coupe de beaucoup d'autres choses, quoi.
Voilà.
Ah ouais, je comprends. C'est vrai que c'est une prise de conscience intéressante.
C'est pas une excuse pour mes échecs, mais c'est vrai que ça explique un petit peu pourquoi.
C'est ce que j'allais te dire. Sans les excuser, ça les explique, et même pour toi, ça peut-être ça t'aligne et ça t'apaise aussi sur des trucs, quoi.
Oui, bien sûr. Ça m'apaise. Après, il y a des choses qui sont très lourdes aussi à porter quand on est dans cette situation-là. Parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens sont morts autour de moi évidemment.
Ouais.
Enfin, il y a Chris bien sûr qui est mort, mais il y a beaucoup de gens sont morts très proches. Enfin, ça a été quand même une espèce de spirale absolument infernale.
Oui, c'est ce que tu dis dans les années 90 avant que tout le traitement arrive.
C'est-à-dire qu'en fait, en 85-86, il n'y a personne qui meurt du sida autour de moi ou c'est assez lointain. Et puis, plus on avance dans les années, plus les accidents ou les morts ou les malades sont autour de soi. En fait, ça se rapproche. C'est des gens plus âgés, c'est des gens amis, puis après c'est des amis d'amis, puis après c'est des amis, et puis après c'est des copains, et puis après c'est des gens qu'on voit au club et le samedi on ne voit plus après. Enfin, il y a toute une espèce de truc très très spirale, très d'emportement, de catastrophe.
C'est la vraie tornade, quoi.
C'est la vraie tornade. Et au milieu de cette tornade, il y a soi. Et on attend que, happé là-dedans.
C'est une question qui est difficile et tu peux ne pas me répondre, mais c'est quoi ton rapport justement avec la mort? De l'avoir vu si proche.
Le rapport avec la mort, je réaffronte ça récemment parce que depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai un cancer et qu'il a récidivé et qu'il est un peu relou. Donc ça me replonge dans. À nouveau, on m'a fait un diagnostic en disant que ça ne serait pas guérissable, mais qu'on pouvait gérer. Donc je me suis replongé à nouveau là-dedans.
Aïe.
Je me suis fait 2 épisodes un petit peu compliqués ces derniers mois. Donc mon rapport avec la mort elle-même, c'est pas forcément ça le plus. Comment je dis ça Vous allez me manquer, quoi. C'est un peu ça le truc. Mmh. Je me dis ça et c'est de la tristesse en fait. Je ressens de la tristesse à l'idée que je peux mourir, mais j'ai pas forcément très peur, mais je ressens de la tristesse à l'idée que je peux mourir.
Je comprends.
De plus voir les gens, que les gens ne me voient plus. Mais c'est vrai que je le mets vachement de ce point de vue-là. C'est vraiment. C'est pas une blague, quoi. Vous allez me manquer.
Je comprends. Aujourd'hui, tu es sous trithérapie. Tu es chez Aide. C'est quoi ton rôle ici?
Alors, à Aide, en fait, je suis ce qu'on appelle un accompagnateur communautaire. Alors, je suis dans la hiérarchie de Aide, je suis tout en bas. J'étais toute ma vie, j'étais indépendant. Et après le premier cancer, en fait. Là, j'ai saisi l'occasion d'être salarié parce que c'est difficile à la montagne d'arriver à un niveau où on est dans l'incertitude la plus complète.
Bien sûr.
Et mon principal rôle, enfin, je travaille essentiellement sur la prise en charge des personnes en situation d'addiction de chemsexe.
Oui. Et donc, tu rencontres plein de jeunes qui ont besoin d'aide.
Pas que des jeunes. Hein.
Enfin, des moins jeunes.
Il y a des jeunes, il y a des vieux aussi. Ouais. Il y a des gens. C'est un phénomène qui est assez. Mais qui concerne toutes sortes de gens,
bien sûr.
Qui concerne toutes sortes de gens qui eux-mêmes, pour des raisons diverses et variées, sont propulsés dans des moments d'incertitude de leur vie, qui se réfugient ou qui sont en tout cas pris dans un système affectif ou un système de consommation de produits qui les soulage. C'est ça le problème, c'est qu'avant d'être un problème, c'est un soulagement.
Et est-ce qu'il y a des jours où tu ne penses pas au sida ?
Non. Non, je pense tous les jours au sida. Mais d'abord, je prends un médicament tous les jours, donc j'y pense forcément. Est-ce que c'est j'y pense pas dans la mesure où ça n'est plus... La mesure de ma vie n'est plus le sida, en fait, comme ça a pu l'être dans les années 90, où chaque geste que je faisais, ou chaque action que j'engageais, ou chaque relation que je mettais en place était conditionnée par le fait de pouvoir la faire ou non, et pouvoir la faire dans quelles conditions. Oui, ça c'était très longtemps un souci de soi, enfin, vraiment une exigence de vie quotidienne très forte, hein, pour pas se lancer dans des trucs complètement aberrants, quoi, ne serait-ce que insensé.
Ouais, je comprends.
Vraiment. Aujourd'hui, non, beaucoup moins du point de vue du sida ou du VIH, puisque je me sens plus menacé par le sida. Mais en revanche, oui, sur le cancer, oui.
Bien sûr.
Ça a pris le relais d'une façon, façon dite très différente, mais c'est, bien sûr. Ça a quand même pris le relais.
Ma dernière question, Tim, ce sera comment on vieillit avec le VIH, parce que ça va faire, sans avoir la date exacte, mais ça fait une petite quarantaine d'années que tu as le VIH.
Ouais, ça, c'est un peu moins, mais pas loin.
J'arrondis. Oui. Est-ce que déjà tu connais des gens qui ont le VIH comme toi depuis 35-40 ans ?
Non, je connais peu de gens qui sont séropositifs depuis aussi longtemps que moi. Il y en a, j'en connais.
Il y en a, oui, j'imagine.
Mais j'en connais pas beaucoup. On s'appelle un peu entre nous le club des 6% ou des 7%, je ne sais plus, parce que c'est vrai que si on regarde les statistiques, quand on en trouve, il y a très peu de survivants.
Mm-hmm.
Pour moi, en fait, moi, je me suis, c'est un peu dur, mais moi, je me vis un peu de toute façon comme un fantôme depuis tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait même d'avoir survécu au SIDA m'a toujours posé dans une espèce de distance vis-à-vis du monde extérieur, enfin extérieur à moi. Et c'est vrai, je me sens déjà à la base un peu comme un fantôme qui regarde des gens un peu de haut, pas de haut, de l'eau.
Oui, je comprends.
D'une façon
de loin.
Présente, mais de
oui,
loin,
oui, je comprends.
En fait, comme si c'était un peu déjà.
Bah, tu les regardes de loin, mais pourtant, t'es dans une association, t'aides les gens, t'es hyper proche, tu donnes
ton
temps.
Oui, mais en fait, c'est vrai que du coup, je me sens beaucoup dans l'empathie. Enfin, je fonctionne beaucoup sur l'empathie et en même temps sur, je dirais pas la non-implication, c'est pas ça, mais disons que je. Avec un peu de froideur. En fait.
Et une distance émotionnelle.
C'est une distance, voilà.
Ouais,
pas une distance, pas émotionnelle, mais une distance.
Okay.
Pas émotionnelle, l'émotion ne me gêne pas, mais une distance, c'est-à-dire que ce qui arrive, arrive. Quoi.
Enfin, une forme de fatalisme, du coup.
Ouais, ou d'acceptation.
D'acceptation.
D'acceptation, c'est pas forcément du fatalisme, mais une acceptation des choses. Je pense que oui, pour pouvoir avoir une emprise sur les choses, il faut les accepter d'abord.
C'est sage. Pour terminer cet entretien, ce que je demande souvent à mes invités, c'est le mot de la fin, enfin le mot ou en tout cas quelque chose qui résume cet entretien. Donc là, tu vas t'adresser à des auditeurs et auditrices qui te découvrent là, dans cette petite série inédite qui sortira pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces auditeurs et auditrices ?
Moi, je pense que quand il y a un phénomène comme le sida ou le VIH, ou même maintenant comme on a eu l'épidémie de Covid, mais d'autres choses bien à la fois humaines et inhumaines, je pense qu'il faut un peu se détacher du sens premier, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que mon expérience... Enfin, ce que j'aimerais bien passer de mon expérience, c'est pas tant « Ah, je suis un homosexuel qui a eu le sida », que quelqu'un qui a été conduit de façon inopportune à affronter des choses à un moment où il n'était pas censé le faire. C'est-à-dire que dans ma... il n'était pas normal que je mette à penser à ma mort à 20 ans. Maintenant, il y a des tas de gens qui, dans le monde, pensent à la mort à 20 ans, dans d'autres sociétés, dans d'autres circonstances, et c'est une forme de normalité. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses normales et des choses anormales, il faut savoir les identifier. Et ce n'est pas les mêmes dans un contexte différent. Il y a un sociologue qui s'appelle Michael Pollack qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a appelé les expériences limites, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un est dans une situation où il est à la limite de l'humanité. Et je trouve que mon expérience a beaucoup été appuyée là-dessus, en fait. Qu'est-ce qui me met à la limite de l'humanité ? Et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à passer comme message. C'est pas forcément... Peut-être qu'on arrivera à vaincre le sida, mais il y aura toujours des expériences limites, il y aura toujours des gens qui vont subir des situations où ils sont au bord de l'humanité.
Merci Tim. Merci pour votre écoute et merci à Tim pour ce moment très fort. C'était vraiment super de le rencontrer. Je trouve qu'il y a eu un super échange. J'étais très touchée par son histoire, par son détachement, par son acceptation. En tout cas, c'est un témoignage que je trouve qu'on entend peu, des séropositifs qui vivent avec le VIH depuis presque 40 ans. C'est important de rappeler qu'ils sont là, c'est important de rappeler qu'ils sont rares. Et voilà, merci encore infiniment à Tim, à Pierre, encore une fois, pour la mise en relation, et à vous pour votre écoute.